Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Les Marches de la Foi, proposée par le service diocésain de formation continue. Catherine Mann avec vous cette semaine, je suis chargée de la formation biblique dans ce service et je vais aujourd'hui donner la parole à deux personnes qui font partie d'un groupe biblique à Chartres, un groupe qui fut fondé par le père Michel Galopin, aujourd'hui décédé, mais dont nous allons évoquer la personnalité et la qualité de son travail. Donc à mes côtés, madame Annick Decroix, bonjour Annick.
Bonjour Catherine, bonjour Anne-Marie, bonjour chers auditeurs.
Et madame Anne-Marie Dallara, bonjour Anne-Marie.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Nous allons évoquer ensemble donc le père Michel Galopin et son travail de bibliste. Mais pour commencer, je voudrais vous lire le témoignage que m'a transmis par écrit un de ses amis, le père Briet. Voici ce qu'il dit. Pour avoir connu Michel, partagé avec lui un travail pastoral à l'époque du doyenné du Timray, Michel était un homme de conviction, prêtre soucieux de ce qui fait le quotidien de la vie, d'une pastorale de proximité. Proposition de la foi en lien avec la vie et de participation à la mission de l'Église, de formation, etc. Dans l'accompagnement des groupes bibliques qu'il animait, Michel ne calculait pas le temps qu'il consacrait à la préparation soignée des rencontres des groupes bibliques. « Ça me fait vivre », m'a-t-il dit, arrivé à la retraite. Il était particulièrement doué pour resituer les parcours bibliques dans les différentes périodes de l'histoire de l'humanité, une manière pédagogique de faire découvrir et comprendre le message biblique pour notre temps, dont on aurait souhaité pouvoir échanger faute de temps, ou que Michel, à la manière d'un enseignant, laissait à la réflexion de chacun. Voilà, mesdames, que pensez-vous de ce que nous disait à l'instant le père Briet?
Moi, je retrouve tout à fait ce que m'évoque Michel Galopin. Quand je pense à Michel Galopin, je pense à un homme, un prêtre et un ami. Quelqu'un de très proche. Témoignage reçu par Jean-François Maruseau, par exemple, qui a été un de ses élèves, par d'anciens paroissiens qui témoignent aussi en ce sens. C'est un homme dont on se souvient comme d'un humaniste, d'un puits de connaissances qu'il partageait volontiers, intarissable sur les problèmes économiques et leurs problématiques, qu'il illustrait par des références historiques et ou philosophiques et renvoyait souvent à de grandes encycliques, surtout à Paul VI, dont il prenait des éléments pour éclairer ses cours d'histoire et d'économie, par exemple pour expliquer la création et la naissance des multinationales. C'était un travailleur infatigable. Professeur à Nermont, il était aussi au conseil d'administration de la coopérative du Crédit Agricole. Ah bon ? Très investi dans les mouvements MFR. On se souvient
MFR, qu'est-ce que c'est ?
Mouvement familial
rural. Pour la famille rurale, d'accord, merci.
On se souvient de ses cours préparés avec rigueur. On parle d'une clarté magistrale, de liens entre les cours, du travail personnel qu'il exigeait de ses élèves, et afin de créer des espaces d'échange et de partage. Ce qu'il voulait, c'est que l'on devienne acteur de son éducation, de sa formation, de sa vie, et apprendre à penser par soi-même. Ça, il tenait beaucoup à cela. Il disait, ses élèves, avec lui, on apprenait. Monsieur Morisot dit, j'en garde une structure de pensée maintenant que je suis maire d'une commune. Il avait une qualité et une efficacité dans la prise de notes que j'ai conservée. Et il m'a aidé à développer une pensée historique.
En ce qui concerne les groupes bibliques, d'après ce que disait le père Briet, il c'était plutôt un cours qu'il donnait qu'un partage.
Oui, enfin, je vais peut-être y revenir un petit peu après.
D'accord.
Avec ses paroissiens, pas grande proximité. assez en retrait. Quelquefois, même, on disait qu'il n'était pas très aimable, même quand on le rencontrait, qu'il faisait ses courses.
Un peu bourru.
Voilà, un peu bourru, voilà. Mais avant tout, une recherche d'efficacité. Par exemple, beaucoup d'exigences sur les horaires. L'heure, c'est l'heure, disait-il. Voilà, ça, c'était impératif. Et puis aussi, pour gagner du temps, répétition des chants pour la messe du dimanche suivant, après la messe. Comme ça, on était sur place. Voilà.
Pris en otage.
Et surtout, ce à quoi il tenait en tant qu'homme, c'était à une hygiène de vie qui, pour lui, était nécessaire. Pour avoir une réflexion saine et une qualité de l'action, il fallait avoir une vie saine. D'où la montagne, la moto, le vélo. Et par contre, il aimait bien manger. Et de temps
c'est
en temps,
bon pour la santé aussi.
Boire une petite suze Negrita. Ça, c'était son petit point faible favori. Voilà pour l'homme.
Et alors, pour le groupe biblique, c'était une manière un peu spéciale de procéder.
Oui, voilà. Alors, pour lui, ce qui comptait avant nous, lui en tant que prêtre, c'était comment rechercher dans nos vies, comment participer à la création. Voilà, c'est ce qu'il voulait avant tout.
À la création avec un grand C ?
Oui, avec un grand C. Faire émerger nos besoins par rapport à la société actuelle, échanger, partager, et toujours c'était fait en relation avec la Bible, afin que l'on recherche dans nos vies comment on peut rejoindre Dieu. Il voulait que l'on devienne témoin de la parole, la lire, la relire et la célébrer. Il disait, on devrait voir dans l'Évangile, dans chaque baptisé, à travers ce qu'il fait de sa vie dans tous les jours, prier et agir.
Ah oui. Madame Dallara, qu'est-ce que vous diriez sur cette prière dans l'action ?
Oui, alors là, je reconnais très bien Michel Golopin parce que, en plus de la formation Bible, j'étais aussi avec lui en équipe chrétien au monde rural, CMR. Et c'est vrai que là, le but, c'était vraiment d'échanger, de partager, mais sur des faits de vie. Donc, on prenait un fait de vie, par exemple, être chez soi, bon, des gens qui venaient de s'acheter une maison. Et donc, on se disait chacun comment nous aussi, on était chez nous, ce qu'on avait vécu, etc. Et à la fin, il arrivait à nous donner des citations de la Bible sur être chez soi dans l'Écriture. Et ça allait, il nous citait aussi bien ce jour-là les Proverbes, l'Évangile selon saint Marc, l'Évangile selon saint Matthieu, l'Épître de Paul aux Galates. Enfin, il arrivait à retrouver dans la Bible tout ce qui concernait un petit peu le sujet.
L'événement pratique, et concret.
À chaque réunion, quel que soit le sujet, la maison, Dieu Père, Noël, enfin bon, Noël.
Mais il préparait
simple.
Avant.
Ah oui, oui. Bah, disons qu'il préparait une semaine avant avec la famille qui recevait et qui choisissait. Donc à tour de rôle, on avait notre sujet, notre fait, et donc il préparait les questions avec les personnes et après il recherchait
toute l'illustration voilà. Biblique des oui, événements. Oui. Ça c'est formidable. C'est vraiment incarner la parole dans la vie quotidienne. Ça devrait être
ce qu'il souhaitait, c'était rencontrer des gens qui justement ne fréquentaient pas forcément l'église comme il l'aurait souhaité, pour que ces gens-là repèrent dans leur vie ce qui était conforme aux enseignements du Christ. Ça, c'était ça.
Et comment faisait-il pour
comme disait Anne-Marie,
découvrir des gens nouveaux
par rapport à
hors église?
Bon, autour de lui, ses paroissiens, il n'y avait pas que des paroissiens, il y avait aussi des gens qui ne fréquentaient pas la messe. Ou...
C'est ça, c'est le plus difficile, c'est comment trouver les gens qui ne sont pas d'église.
Je pense qu'on trouve une famille intéressée et qui coopte des gens dans leurs amis. En disant,
c'est du bouche à oreille, en fait.
Oui.
Non, mais il faut aussi, pour arriver à un partage comme ça, que ce soit convivial et que les gens ils soient quand même à l'aise entre eux, qu'ils ne se sentent pas jugés et qu'ils partagent à fond, quoi, en fait. Donc, ça, c'est important que les gens s'invitent entre eux, quoi. Et le groupe, il reste sur plusieurs années. Bon, après, il y en a qui partent, d'autres qu'on réinvite, on pense à certains, enfin... C'est comme ça que ça...
Et donc, ce type de cooptation, ça continue dans votre groupe à Chartres?
Oui, cette année, on a accueilli des personnes nouvelles, en fait, par oui dire, par relation, les gens viennent
donc
nous retrouver.
Vous avez pris cette manière de travailler et ça continue.
Oui.
Ça, donc, il y a un héritage.
Et c'était pour lui, c'était important qu'on se réunisse et que l'on s'accompagne les uns les autres. C'est ce qu'il recherchait, surtout aussi à travers nos rencontres bibliques en amont. Parce que ça, c'était une rigueur intellectuelle qu'il a essayé de mettre en place chez nous. Il y avait le cours, certes, mais on préparait le cours d'après. Il nous donnait toujours une trame. Qu'est-ce que vous avez repéré? Qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que cela vous a apporté?
Qu'est-ce qui vous étonne?
Voilà.
Qu'est-ce qui vous étonne?
Et souvent, bon, c'était pour qu'on se réunisse en amont et qu'on garde l'habitude de se retrouver sans lui, en fait, aussi.
Oui, hein. Ça, c'est vraiment très généreux et puis utile, puisque ça continue. Il y a combien de temps que le père Galopin est mort?
Moi, je dirais 4 ans, mais le temps passe tellement vite que je... C'était en août, avant le 15 août.
Mais l'année, on ne sait pas. Enfin, environ 3-4 ans.
Ouais, il paraît, depuis, il préparait beaucoup ses rencontres. Hein.
Oui, c'est ça.
C'était un homme, il avait une force de travail impressionnante. Hein. Et moi, j'en garde un excellent souvenir de cette somme de travail qu'il a mis à notre disposition, avec une rigueur de préparation, et beau aussi. Et on avait envie de lire. Il avait tout à fait un codage personnel avec des crayons de couleur. Il avait un bic 4 couleurs.
Donc il écrivait à la main.
Oui.
Et avec des couleurs différentes. Il faut bien le signaler quand même. Hein.
Des couleurs.
C'est une manière de se mettre soi-même en action.
Et pour nous, ça nous sautait aux yeux. On savait que c'était de l'Ancien Testament. On savait que c'était des cahiers d'évangiles. On savait que c'était du monde de religion. Mmh. Avec son codage, tout de suite, hein, c'était une lecture facilitée, en fait. Hein.
C'est un pédagogue.
Oui, tout à fait. Oui.
Et maintenant, qu'est-ce qui vous reste de ce fonctionnement?
Aujourd'hui, nous, grâce à ces travaux, qui représentent une montagne, hein, c'est une somme de travaux, là, nous continuons à nous rencontrer sur ces consignes, en fait. Hein, on prépare en amont, on lit le texte, on dit un petit peu ce qui nous interroge aussi, et puis ensemble, on avance, on chemine.
Et vous travaillez quelle partie biblique?
Les Actes des Apôtres. Mais en même temps, on a quand même ses écrits, parce qu'en fait, tous les écrits qu'il avait préparés, ils sont restés quand même en archive, et donc on s'appuie quand même sur ses écrits. Bon, alors évidemment, il n'est pas là pour nous les expliquer, des fois c'est moins simple, mais on n'est pas dans la nature complète, quoi. On a quand même
on peut se servir son travail. De son travail, oui. Ça, c'est
qui est vraiment encore lisible, puisque justement, c'est bien fait, on sait d'où ça vient, etc. Donc, on a quand même des références.
Et puis, on a la chance d'avoir avec nous le père Brier et Catherine Mann.
Oui, elle fait ce qu'elle peut. Mais c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur le travail écrit et multicolore de l'érudition. Nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. J'espère que nous vous avons donné envie de venir participer à ce groupe biblique à la mémoire du Père Galopin. Vous pouvez trouver tous les renseignements au service formation du diocèse. Donc, mesdames, merci d'être venues nous parler du Père Galopin.
Merci Catherine, merci Anne-Marie.
Merci.
J'espère que le Père Galopin, là où il est heureux de cet
hommage. Ah bah oui, il faut absolument
cet hommage.
Sur son œuvre. Hein. Oui. Donc je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt. No!